Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Pourquoi est-il important de faire un don bénévole de sang? On en parle aujourd'hui avec Dr Pacifique Missingui, directeur du Centre National des Transfusions Sanguines. Dr Pacifique, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Bienvenue dans cette émission Capi Service. Et nous recevrons également Monsieur Jean-Marie Bayongwa, responsable de la communication et promotion des dons du sang au CNTS. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la prolifération des stations-service dans les quartiers populaires de Kinshasa. Quels sont les dangers que cela représente? Eh bien, on en parle dans la deuxième partie de cette émission. Il y a une station-service dans votre quartier, n'hésitez pas à nous appeler pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Au micro, c'est Jody Damien Keshama. Excellente condition d'écoute.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, nous parlons aujourd'hui du don bénévole de sang. Eh bien, retenez que la RDC compte aujourd'hui, on parle de 34% des donneurs bénévoles de sang au lieu de 80% tel que recommandé par l'OMS et selon les experts. Pour diverses raisons, de nombreux Congolais ne sont pas intéressés à donner gratuitement leur sang pour sauver des vies. Dans certains hôpitaux, il s'est même développé un réseau des personnes qui vendent le sang pour transfuser les patients qui sont dans le besoin. Pourquoi est-il important de faire un don bénévole de sang? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui dans cette émission avec Dr Pacifique Missingui, directeur du Centre National des Transfusions Sanguines. Et nous avons en ligne Monsieur Jean-Marie Bayongwa, responsable de la communication et promotion des dons de sang au Centre National des Transfusions Sanguines, CNTS. Monsieur Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Docteur Pacifique, c'est quoi un don bénévole de sang?
Merci, cher Abbé. Un don bénévole de sang, c'est un acte posé par une personne en bonne santé, un acte volontaire, bénévole, sans contrepartie, qui consiste à donner de son sang, et lui, il est appelé donneur, à donner de son sang pour sauver une autre personne qui est en détresse, qu'on appelle le receveur.
Voilà, c'est ça les dons bénévoles de sang.
Oui, un acte volontaire,
volontaire
fait par une personne en bonne santé en vue de sauver une autre personne en état de détresse, en état de maladie, en donnant un peu de son sang.
Pourquoi? Parce qu'il y a carence de sang au niveau de la banque de sang?
Non, ce n'est pas parce qu'il y a carence. C'est un acte qu'on fait pour sauver d'abord la vie. Évidemment, au niveau du Centre National des Transfusions Sanguines, comme au niveau de certaines structures de formation sanitaire, il y a une certaine pénurie constatée à ces niveaux-là. Et donc, il faut de plus en plus mobiliser davantage de personnes pour faire des dons bénévoles de sang de manière à approvisionner les structures, de manière à sauver des vies qui sont en détresse par rapport à une insuffisance en quantité de sang.
D'accord. Alors, qui peut faire un don bénévole de sang?
C'est toute personne, en termes d'âge, âgée de 18 à 65 ans, en bon état de santé, peut faire un don bénévole de sang. Qu'il s'agisse des hommes comme des femmes. Et sur l'année, un homme peut faire en moyenne 4 fois son don bénévole et la femme peut faire en moyenne 3 fois.
Et quelles sont les raisons qui expliquent qu'aujourd'hui il n'y a plus assez de donneurs bénévoles de sang, docteur Pacifique?
Bon, il y a plusieurs obstacles à cela. Il faut d'abord épingler ici la question et la problématique des croyances erronées autour des dons de sang. Il faut aussi épingler certaines cultures. Il faut épingler certaines religions, notamment, qui pour elles, faire un don de sang, relèverait des actes qui sont à la limite prohibés.
Mmh.
Et à ces deux raisons, donc les croyances erronées, les cultures, certaines religions, il y a aussi le problème de la logistique. Il faut davantage de moyens logistiques pour arriver jusqu'au dernier kilomètre, arriver à sensibiliser le maximum de gens pour approvisionner le centre national en unité de sang, comme approvisionner les hôpitaux qui ont les plateaux techniques à même de faire les dons de sang en produits sanguins.
Bien. Monsieur, nous avons en ligne Monsieur Jean-Marie Bayongwa, qui est responsable de la communication et promotion. Alors, si aujourd'hui on a plus assez de donneurs bénévoles de sang, on peut dire mettre cela sur le compte d'un problème de communication, de mobilisation?
Et évidemment, en plus de ce facteur, je salue le directeur qui a apporté des éclaircissements, ainsi que vous-même. En plus de tout cela, donc, il y a un déficit communicationnel. Et ces obstacles qu'il y a créent un système de désinformation sur les dons bénévoles de sang. Les gens sont mal informés. Et comme vous le savez, souvent, la communauté adhère souvent à la mauvaise communication, aux rumeurs. Voilà pourquoi il faut à toutes ces allégations ajouter une forte communication et qui devrait être appuyée tout à l'heure, comme le travail qu'on fait dans la presse. Il faut que les gens sachent que le don de sang sauve une vie et que chaque personne peut être bénéficiaire du don bénévole de sang parce qu'on ne sait jamais. Et les grands bénéficiaires, ce sont les femmes et les enfants, le couple mère-enfant. Et dans l'humanité, quand on travaille pour la femme et l'enfant, on devait être motivé. Consciencieusement. Et à part cela, nous avons les accidents de chaque jour. Notre ville et notre pays est en train d'amorcer un processus de développement. Ce sont toutes ces constructions, tous ces embouteillages, ces motos que vous voyez. C'est parce qu'il n'y a pas de statistiques dans notre pays. Mais beaucoup de gens meurent par ces accidents-là. Eh bien, nous sommes le deuxième pays en effectif de paludisme, après le Nigeria, selon les statistiques de 2020. Or, le paludisme chez les enfants entre 0 et 5 ans, lorsqu'il n'a pas été bien traité, il consomme l'hémoglobine, c'est-à-dire le globule rouge, qui est une partie importante du sang. Ce qui fait que vous voyez, parmi nos activités, elle s'adresse beaucoup, et en fait, elle s'oriente vers les hôpitaux, notamment dans les pédiatries, les gynécologies, où nous avons beaucoup de receveurs, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand je prends encore les chiffres 2020, chaque jour à Kinshasa, c'est entre 600 et 1000 personnes qui sont transfusées. Mais la population ne le sait pas. Les autorités sanitaires ne le savent pas. Les partenaires ne le savent pas. Et cette désinformation fait aussi qu'il y a une méfiance sur les dons bénévoles de sang, alors qu'aujourd'hui, on peut le dire en santé publique, c'est une des activités qui devait être bien appuyée. Pas en semaine que dans le cas de COVID-19, la plupart des patients donc, qui vivent les complications, au finish, il y a toujours un besoin de transfuser. Il faut donc que cette conscience collective soit alimentée par les leaders d'opinion, les grandes communautés, et nous-mêmes, les synthèses, nous appuyons sur ça pour que l'information arrive à tout le monde et que ce soit la bonne information.
Voilà, mais prenons par exemple pour cela, pour des raisons religieuses, n'acceptent pas la transfusion, qui n'acceptent pas cela. Comment comptez-vous communiquer avec cette catégorie de personnes?
Oui, vous savez, les communautés auxquelles nous adressons nos sensibilisations, nous les appelons en termes techniques les CBR, les communautés à bas risque. Et les églises sont classées parmi les communautés à bas risque, parce que vous savez, il faut donner aux receveurs un sang de qualité. Et le comportement sexuel non ordonné, n'est-ce pas, ne prédispose pas à du sang de qualité. Or, nous savons que les religions, les églises en général, elles prêchent pour une éthique religieuse comportementale. Et donc, les églises sont un grand partenaire pour le PENTES. Mais avec les doctrines variées, si certaines vont au-delà, eh bien, nous avons aussi dans l'équipe de la promotion des dons, des collègues qui ont développé aussi des connaissances religieuses autour du sang pour essayer de convaincre ces personnes qui étaient mal informées. C'est en fait des petits débats collectifs, n'est-ce pas, sur ces dons de sang qui doivent privilégier les résultats au lieu des doctrines. Parce qu'on sait que ce qui est important, qu'on soit de quelle religion, de quelle race, le sang sauve une vie, même en détresse.
Bien. Alors, on va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà un auditeur en ligne depuis Bandundouville. Il s'agit de deux auditeurs, Isaac de Bounia et Malonga de Bandundouville. Isaac, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour aux auditeurs.
Quelle est votre question par rapport au don bénévole des sangs?
Voilà, exactement, j'aurais seulement une petite question, parce que, à suivant ces sujets, ça m'a intéressé, du fait que moi aussi, je fais l'un hein, des membres de ces donateurs-là, je l'ai fait plus des deux, trois fois, aider les enfants dans des hôpitaux, et à un moment donné, même les docteurs me cherchaient du jour au jour, et on faisait toujours les dons de ces sangs-là.
À l'hôpital général de Bounia?
Oui, je l'ai fait à l'hôpital général de Bounia et à l'hôpital de référence de Maagui. J'ai fait aussi des fois là-bas.
Et maintenant, vous ne le faites plus? Pourquoi vous ne le faites plus?
Je ne le fais plus parce qu'aucun docteur est venu me dire qu'après ces dons ou quoi, vous aurez telle conséquence, des choses pareilles. Personne ne me l'a dit. Hein. Par la conscience, je me suis dit, mais est-ce que si j'ai donné toujours les données, je n'aurai pas une conséquence par après? Je cessais de le faire. Mais à un moment donné, je trouve qu'il y a du sang et ça dépasse le niveau, alors je suis obligé d'aller toujours évacuer le sang. Mais ma question, c'est quoi, vu cette suggestion, comme j'ai déjà même souligné cela, si je demeure toujours comme donateur...
Donc cela veut dire que, Isaac, si vous allez faire un don de sang, c'est parce qu'il y en a beaucoup et puis vous préférez évacuer une partie.
Oui, mais c'est ça, mais en fait... je pars faire les dons. Hein. Bon, c'est ça ce que je disais, j'étais un peu populaire dans les quartiers, on se veut, parce que le groupe zéro, c'est ça ce qu'on dit, on a toujours l'attitude de les dire. Hein. J'étais populaire, tout le monde sollicitait que je parte donner les sangs. Et en fait, je ne sais pas développer trop de choses, mais je voulais poser une petite question à nos invités. Hein. Comme je l'ai donné plus de 3 fois, 4 fois, 5 fois, est-ce que par après, il n'y a pas une conséquence qui peut intervenir après telle année? Si il peut m'éclaircir en fait que je sois toujours... Parce que même maintenant, on me sollicite, il faut que je donne. Mmh. Alors est-ce que s'il n'y aura pas de conséquences, il peut me donner un petit conseil en fait?
D'accord. Docteur Pacifique. Bon, à un instant, on va accueillir un deuxième auditeur, comme ça vous allez répondre une fois pour tous et une fois pour toutes. Malonga de Bandunduville, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à notre docteur et bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au don bénévole de sang?
Bon, en tout cas, j'ai très bien suivi l'invité. Comme notre thématique se base sur comment il y a réticence des donneurs du sang, en tout cas, je dis, cela est dit suite d'abord à ce que mon confrère vient de dire là-bas. Ici à Bandunduville, il y a les donneurs. Mais lorsque je me raconte avec ces donneurs de sang, il se lamente souvent que après donner le sang, il n'y a aucun encadrement. C'est vrai que je peux demander d'abord d'avancer à notre invité qui est là. Est-ce qu'il y a il y a un principe ou bien un entendement entre les hôpitaux, la banque de sang et les donneurs de sang qui ils sont déjà reconnus? Ils peuvent avoir quelque chose, même à la fin de mois, même à chaque besoin, ils peuvent être bien encadrés. Il va nous expliquer.
Bon, je vais encadrer veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire encadrement? Qu'on leur remette un peu d'argent régulièrement?
Oui, c'est encadrement, hein, c'est d'une manière ou d'une autre. Hein, que si ces donneurs de sang ont besoin soit avant de donner le sang, vous lui donnez quelque chose et il reçoit ça directement. Raison pour laquelle moi je demande ça, puisque je me raconte souvent avec mes collègues qui donnent le sang, ils se demandent souvent comme ça. Après avoir donné le sang, ils se voient donc déséquilibrés, tout ça, il n'y a pas d'alimentation propre. Peut-être qu'ils donnent ça, mais il n'a pas les moyens. Vous voyez qu'ils sont vraiment dépourvus de l'air sans pour rien. C'est ce qui se considère comme ça. Mmh. Alors, c'est la question que le docteur peut nous demander. En deuxième lieu, j'ai entendu aussi l'invité dire que non, ce qui provoque cette réticence, puisqu'il y a mauvaise vulgarisation des religieux, ceci, oui, oui, c'est vérité. Je dis, en tout cas, c'est un témoignage que je vais dire. Moi, je suis un adventiste du 7e jour mouvement des réformes. Dans notre église, nous étions vraiment catégoriques de ne plus donner le sang et de ne plus recevoir le sang d'une autre personne. Mais à la conférence générale de notre organisation là en Amérique, en Virginie, qu'est-ce qu'on a dit? Dans notre église aussi, il y a des médecins. Ce sont les médecins, nos médecins propres qui croient aussi à Jésus-Christ et à Dieu. Ils se sont mis devant l'assemblée dire que, en tout cas, ça, nous arrivons parfois à perdre la vie de certains patients suite à notre croyance là. Nous sommes les docteurs, nous trouvons le cas qui demande il faut la transfusion du sang. Si sans cela, en tout cas, la personne va mourir. Désormais, dans notre église, nous ne pouvons pas rester comme ça. S'il y a le cas de transfuser le sang, il faut accepter. Aujourd'hui, tous les adventistes du 7e jour mouvement des réformes, nous sommes d'accord à recevoir le sang et à donner le sang.
D'accord.
Mais c'est la condition, c'est raison pour laquelle je vais exhorter aussi tout, les autres communautés.
Ça, c'est à emboîter le pas.
Ça, ce n'est pas la méthode de qui Dieu avait défendu au Deutéronome. Dieu a défendu de ne pas manger l'animal avec le sang.
D'accord.
De ne pas consommer le sang.
D'accord,
alors,
merci.
Pour chercher la vie d'autres, en tout cas, il faut donner. Merci beaucoup.
Il faut donner. Merci beaucoup. Docteur Pacifique, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
En tout cas, cher ami, je vous remercie très sincèrement d'avoir contribué à cette émission et d'avoir posé ces questions qui méritent d'être clarifiées. Pour le premier intervenant de Bounia, lui, il demande s'il n'y a pas de conséquences quand on donne au-delà de 3 fois son sang. C'est ça? Ici, je veux lui dire tout de suite qu'il n'y a aucun inconvénient, aucune conséquence. Parce que le corps lui-même recycle nos globules rouges tous les 3 mois. Donc, qu'on donne du sang ou qu'on ne donne pas de sang, les globules rouges arrivés à âge mature, arrivés vieux, entre guillemets, sont éliminés par un mécanisme interne et propre au corps. Et donc, donner son sang plus de 3 fois n'a aucune conséquence pour l'avenir.
Peut-être qu'il a peur que la quantité va baisser, ou bien il y a certains qui ont peur et qui se disent non, il faut prendre du lait, il faut prendre des tomates pour, pour remplacer le sang qu'on a donné.
Bon, par rapport à la quantité, je voudrais les rassurer parce que ce qu'on prélève en réalité, c'est à la limite les dixièmes du volume du sang que la personne possède. Et donc, ça n'a aucun impact sur un déséquilibre homéostasique, un déséquilibre sur le plan de santé. Et donc, il faut qu'on se tranquillise. Ce qu'on prélève, c'est le minimum possible. Et après des examens, après un entretien, après un screening normal, on se détermine de quel volume, de quelle quantité on doit prélever et à qui. Le faire plus de 3 fois, à mon avis, et à ma connaissance jusqu'aujourd'hui, ça n'a aucune conséquence. Je voulais donc rassurer le premier intervenant. Mais ce que j'ai noté chez lui, qu'il a évoqué qu'il donnait très souvent son sang parce qu'il en trouvait qu'il en avait.
Il en avait beaucoup.
Beaucoup.
C'est vrai.
Et donc,
on peut se retrouver avec beaucoup de sang?
Si on se retrouve avec des taux élevés d'hématocrite ou bien d'hémoglobine, cela, il faut consulter un médecin pour cela et c'est une anomalie. Si on a beaucoup de sang. Mais ici, les dons de sang, on ne le fait pas parce qu'on a constaté qu'on a beaucoup de sang. On le fait parce que c'est un acte d'amour, parce qu'on veut sauver quelqu'un. Si on fait un don de sang parce qu'on en a trop, c'est que la motivation n'a pas été celle de vouloir sauver une vie en danger.
Bien. Et Malong a parlé de sa communauté. Là-bas, on ne donnait pas les sangs, mais maintenant... Et ils ont revu leur façon de faire les choses. Ils acceptent maintenant de donner le sang pour sauver des vies. Et il conseille également aux autres communautés religieuses d'emboîter les pas.
Tout à fait. Je suis très très flatté de voir que Malong, de là où il est, il devient carrément notre père recruteur, notre point focal, à même de sensibiliser d'autres églises et d'autres personnes qui peuvent être à mesure de faire ce don de sang du point de vue de leur état de santé. Alors, Malong a aussi évoqué un aspect d'encadrement des donneurs. Alors, ici, j'ai dit que quand on considère que le don, il est bénévole, dans un premier temps...
On ne doit pas s'attendre à quelque chose en retour.
Bien sûr. En tout cas, on ne s'attend à rien en termes de contrepartie. L'encadrement dont on réfléchit ici, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons... Dans les paquets de stratégies de fidélisation de nos donneurs, comment faire en sorte qu'un donneur, lorsqu'il a lui-même besoin d'une assistance en termes de soins de santé, comment négocier avec les hôpitaux, faire en sorte qu'il y ait des facilités qu'on puisse donner à ces donneurs lorsque, par exemple, que le donneur a besoin lui-même, sa femme ou son enfant a besoin d'une unité de sang, comment on peut les lui octroyer sans faire sortir un moindre sou. Ça fait partie des mécanismes d'encadrement. Mais quant à payer un donneur pour son geste, nous pensons que c'est vraiment une contre-indication par rapport aux dons que nous voulons bénévoles, anonymes et non rémunérés.
Mais vous leur donnez de temps en temps du lait ou autre chose, ils reçoivent ce genre de...
Bon,
des petits dons de temps en temps, ou bien vous donnez votre sang et puis vous rentrez. Ils sont enregistrés, ils ont des cartes, il y a un certain encadrement.
Tout à fait, tout à fait. Chaque donneur a son badge, a sa carte par rapport notamment au nombre de dons qu'il a déjà posés. Donc il y a ceux-là qui ont des cartes avant des dons, les cartes des personnes qui ont des cartes avec plusieurs dons, et d'autres ont même des diplômes. Donc nous avons un mécanisme d'encadrement. Des cartes, mais quand il y a des cartes où ils sont enregistrés dans un registre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on fait son don de sang, en guise de remerciement, il y a une stratégie qui veut que, après avoir fait un don de sang, pendant que vous vous reposiez pour une petite observation normale, on vous offre un kit, on vous offre de l'eau, on vous offre une bouteille de sucre, un petit pain garni, s'il y a moyen. Ça, ce n'est pas ce qu'on peut qualifier d'un encadrement ou bien d'un encouragement après. Donc c'est juste un petit cocktail qu'on donne lorsqu'on vous observe après avoir fait votre don.
D'accord. Monsieur Jean-Marie Bayongwa, votre réaction par rapport à cela?
Oui, en fait, à propos de l'encadrement, pour pouvoir compléter les directeurs, c'est vrai, nous avons au CNTS, au Centre National Conjoint Sanguine, un département qui s'occupe de la gestion des donneurs. Ce département-là, en fait, qui encadre le donneur dans son circuit et qui réunit tous les aspects administratifs qui consistent à déterminer une base de données, les donneurs bénévoles du sang. Et je voudrais encourager M. Malon, parce que dans cette base-là, j'ai trouvé un donneur qui a fait 100 dons, 100 fois les dons de sang.
100
fois. Et qui est en très bonne santé, c'est un prédicateur d'aide de la communauté de Ngringil. Et pour, en fait, confirmer ce que le directeur dit, parce qu'à chaque don de sang, le donneur est consulté par un médecin. Ouais. Le don de sang est précédé par une consultation et puis un récit de vie dans lequel le médecin peut scanner que le donneur est favorable à un don proche ou pas. Donc on peut dire que toutes les garanties aujourd'hui sont prises pour que celui qui fait le don de sang soit protégé et soit encadré en post-don, donc après avoir fait son don. Il est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, dans cette stratégie de communication de masse, il est important qu'il puisse avoir un système d'encadrement des donneurs par association. À Kinshasa, nous avons déjà 26 associations qui se réunissent dans la FADEBES, de la Fédération des donneurs bénévoles de sang. Évidemment, dont le fonctionnement maintenant est en ralenti avec cette période où les attroupements collectifs sont un peu limités. Mais dans cet encadrement-là, nous prévoyons des conférences dedans, ou des partages d'expériences. Un peu comme on vient d'entendre l'adventiste du 7e jour aux États-Unis. Ce sont des mouvements, des réformes qui sont aussi produites par les discussions, les débats, les partages d'expériences pour permettre à ceux que les donneurs qu'ils ne viennent pas seulement une fois donné. Parce que quand il vient une seule fois donné, eh bien, c'est un perdu de vie. Il n'est plus un élément important pour la transfusion sanguine.
Donc, il faut donner après combien de temps? Chaque mois ou bien chaque semaine, on peut passer de faire un don de sang?
Oui. Et le donneur a produit un sang beaucoup plus sûr quand il est revenu plusieurs fois. Nous allons l'appeler le donneur fidélisé. Et nous remettons ceci même dans les principes de la loi, les principes éthiques, on nous dit que le donneur qui est plus fidélisé, eh bien, il est beaucoup plus utile à la sécurité transfusionnelle. Parce que c'est une personne qui est dans une base, qui est suivie, et on peut donner beaucoup plus d'importance, un peu plus de confiance à ce sang qui est beaucoup plus qualitatif qu'un donneur occasionnel. Donc je dis que l'encadrement des donneurs, c'est une chose que nous devons poursuivre, c'est notre responsabilité.
Bien, on va accueillir Alexis de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aux invités et à tous les auditeurs Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante, monsieur Jody. Je me dis, je sais que la fois dernière, on aurait dû débattre encore sur un sujet pareil. On avait soulevé des points très nécessaires, très capitales concernant les taux des donneurs de bénévoles de sang. Vous savez, monsieur Jody, ce système n'est pas contrôlé dans notre pays. Dans quel sens? Dans un sens où vous verrez même dans des petits postes de santé, la technique de transfusion sanguine est en train de se pratiquer, alors que c'est complètement interdit au sein de notre système sanitaire du pays. Et vous voyez, si on se disait, on encadre bien les donneurs bénévoles de sang, et que ce centre-là de réception de ce sang-là est bien ordonné, vous verrez que ces gens-là, parfois, qui se donnent les monopoles de transfuser les gens dans les privés en prenant du sang brut, et ils le transfusent comme ça sans passer par des examens, devraient avoir déjà une orientation. Ils se disent, même si je suis dans un poste de santé, avant qu'on me transfuse, je dois me diriger dans un centre où on donne du sang. Et c'est un centre bien encadré. Alors, il y a aussi un problème de communication dans notre pays. Autrefois, quand on débattait sur ces sujets, je vous ai dit, monsieur Jody, le système de communication au sein du pays n'est pas vraiment beaucoup plus intensifié en la matière. Dans un sens où, vous verrez, il y a des quartiers, particulièrement ici à Kinshasa, des quartiers de la périphérie, où c'est difficile que ces gens-là aient une information. Un jour, on faisait les TP, autrefois, je vous ai dit, sur la physiologie sanguine, il y a des années. Je passe de l'autre côté des Pakadjouma, à Kingabwa. On pose des questions, il y a même des gens qui ne connaissent pas c'est quoi donner du sang, c'est quoi d'avoir un don de sang. Vous voyez, il y a un problème de communication très sérieux. Je pense que le centre d'accueil devrait intensifier. Moi, je vois dans certains hôpitaux comme à Saint-Joseph, à l'occurrence, à la 15e rue, où à la fin de chaque, je crois, à la fin de chaque 3 mois, ils organisent des campagnes de sensibilisation, ils mettent en jeu des moyens pour que les gens viennent. Ils organisent des matchs de football avec les jeunes du quartier, ils donnent du sang gratuitement, ils distribuent des polos. Et les Congolais aiment ça, l'homme Congolais aime ça. Quand tu as quand même un lucre, il va venir, il va donner du sang. Vous verrez que les taux vont augmenter, le pourcentage va augmenter. Il y a aussi un problème, ces gens-là qui viennent donner leur sang gratuitement, il y a ces gens-là qui sont profanes, qui ne connaissent pas, ils savent que quand je vais donner du sang, à un certain moment, je ne serai plus en bonne santé. Il faut retour, que je mange bien, que je prenne ceci, cela. Alors ces gens-là devraient passer d'abord par un changement de mentalité, c'est-à-dire une communication avant
d'abord de donner un peu de merci Alexis. Merci Alexis de Kinshasa. On va donner la parole à Paloukou. Jean Paloukou depuis Poulou. Jean, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Oza na Poulou, olingi opposé olingo tuna motuna par rapport ya likambo itali kopesa makila. Motuna na wizani.
Nazali na mutuna ya kopesa makila te. Nazali na shika na lingaki na explique bino mushika na nga na zona ngo.
Olinga ko explique biso nini?
Kika probleme, ba probleme na zona ngo na mboko oyo.
Bon, ba probleme oza na ngo na mboko oyo. Awa toza, eza emission tozo lobe la makabu ya kopesa makila. Donc, zo oza na ba probleme mususu, wana toko sola na sima. Bien, docteur, je reviens à vous, docteur Pacifique. Vous avez suivi la préoccupation d'Alexis de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cela?
Merci beaucoup, cher Alexis. Vous avez évoqué une question capitale par rapport au système de santé lui-même, parce que vous avez dit qu'il y a des centres de santé qui posent des actes de transfusion sanguine, alors que ces centres-là ne sont pas habilités à le faire. Ici, ça relève de l'autorité locale. Ici, je vois en particulier les médecins chefs de zone de santé qui, dans sa circonscription, il doit être à mesure de voir dans quelle mesure quel est l'hôpital ou quelle est la formation sanitaire qui est habilitée à poser quel type d'acte. Parce qu'il faut noter ici que à chaque niveau de notre pyramide sanitaire, nous avons des actes qui sont autorisés à être posés au niveau de l'hôpital général de référence. Ainsi qu'au niveau des centres de santé. Donc, il faut être regardant. Ici, je m'adresse particulièrement aux autorités sanitaires locales. Il y a les médecins chefs de zone de santé. Il y a l'infirmière titulaire qui est au niveau de l'aire de santé. Et de voir dans quelle mesure, quelle est la formation sanitaire qui pose un acte qui ne l'est pas dévolu. Et donc, là, il faut être très clair. Alors, en ce qui concerne la communication, vous l'avez évoqué qu'il y a des formations sanitaires qui, tous les 3 mois, organise des campagnes. Derrière tout ça, il faut des moyens logistiques, il faut des moyens financiers conséquents, que nous devrions mettre en jeu pour pouvoir atteindre les maximums possibles. Donc il faut vraiment financer.
Mais vous n'avez pas ces moyens-là pour la communication?
Au stade actuel, en termes de moyens financiers, nous n'en avons pas assez. C'est pourquoi nous passons par plusieurs canaux, nous passons par notamment les églises ou les pasteurs, ainsi que toutes les personnes qui encadrent les fidèles, qui bénévolement acceptent de faire passer les messages pour faire en sorte que le nombre de donneurs bénévoles de sang augmente. Les moyens sont nécessaires. Au stade actuel, nous n'avons pas assez. C'est peut-être une occasion pour lancer un appel à ceux-là qui aiment notre activité de venir épauler le Centre national de transfusion sanguine en termes de la logistique nécessaire pour sensibiliser, fidéliser et se déployer le plus loin possible.
Monsieur Jean-Marie Bayongo, quelle est la logistique nécessaire dont vous avez besoin pour intensifier la communication autour du don bénévole de sang?
Bon, merci beaucoup. À part ces aspects de coordination, il faut dire que nous avons déjà un plan de communication qui pourrait être mis en œuvre, n'est-ce pas? Et comme le directeur l'a dit, des moyens. Et parmi les aspects logistiques, vous avez les systèmes de communication modernes maintenant, notamment. Et nous avons aussi des communications des aspects élémentaires. Pour passer chez vous à la télévision, ça coûte. Hein, les aspects médiatiques, elles ont un coût. Et les mouvements pour atteindre les communautés, c'est des matériels roulants qui devaient nous permettre d'avoir des systèmes mobiles, parce que nous avons des collectes mobiles dans 24 communes, et cela demande des moyens. Nous avons également aujourd'hui, avec le système des réseaux sociaux, nous sommes déjà sur Facebook, mais on aurait besoin d'avoir encore d'autres canaux plus multipliés, qui demandent en fait ici l'intervention non seulement de l'État, mais aussi des partenaires. Il est vrai que pour mettre en œuvre notre plan de communication qui est vaste et qui est très costaud, ça demande aussi un grand plaidoyer. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Et nous vous en remercions d'ailleurs.
Bien, on va accueillir Platini de Mbandaka. Bonjour.
Je dis bonjour, je salue les business ici.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Platini?
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui pour m'avoir accordé la parole. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas trop kilométrique. Mais justement, je vais avoir un peu, je vais savoir un peu plus, hein, parce que en cette période de la pandémie, la COVID-19, je ne sais pas si la personne, l'invité, est censé nous expliquer un peu. Pour le moment, est-ce que est-il possible de donner encore le sang pendant cette période aussi de la pandémie? Voilà ce que je voulais avoir un peu l'idée sur l'invité Pierre, l'invité du jour.
Bien, merci. Docteur Pacifique.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Platini. Moi, je pense que jusqu'au stade actuel, par rapport à la pandémie à coronavirus, on peut donner son sang. De manière technique, il faut seulement qu'on respecte toutes les mesures barrières et toutes les autres mesures autour de ce don de sang. Et je vous rassure aussi qu'il n'est pas encore démontré aujourd'hui qu'il y a une transmission verticale du virus du sang vers une autre personne. Et donc, moi je pense, nous allons prendre et nous prenons aujourd'hui toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les donneurs par rapport à toutes les mesures et sécuriser aussi les prestataires. Il faut seulement que vous veniez observer ce que nous faisons sur le terrain pour vous en rendre compte. Moi, je pense qu'on peut faire ce don de sang pendant cette période. Ce qu'on évite, c'est des attroupements au-delà des 20 personnes. Ce qu'on évite, c'est de rapprocher les sites de prélèvement par rapport à un donneur et à un autre. Moi, je pense que pendant ce contexte de pandémie avec coronavirus, on continue à faire ce don de sang. Nous avons même développé une stratégie de faire en sorte que l'on puisse, à travers notamment Facebook, orienter déjà les donneurs de sang par rapport à certains hôpitaux qui ont des plateaux techniques à même de faire les dons de sang.
Pierre Sapo vient de nous écrire sur Facebook. Il dit « L'OMS vient d'interdire la transfusion sanguine ». Est-ce que vous confirmez cela, docteur?
Pas possible. Parce qu'aujourd'hui, en fait, une transfusion sanguine pertinente, c'est une thérapeutique qui sauve une vie. Lorsque l'individu a besoin du sang, on ne peut que donner ce sang. Mais avant de faire la transfusion, naturellement, il y a d'autres alternatives qu'on exploite. Donc, la transfusion, c'est un acte ultime. Moi, je pense que l'OMS, jusqu'à maintenant que je suis sur les plateaux.
Mmh. Vous n'êtes pas au courant
de ça. Et je ne pense pas que ça va arriver d'ici là.
Mmh. Alors, certains disent que ceux qui peuvent donner les sangs, ça dépend aussi des groupes sanguins. Il faut être O positif. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas faire un don bénévole de sang.
Non, c'est pas ça. Tout le monde peut faire son don de sang. Le don de sang n'est pas dépendant d'un type quelconque de groupe sanguin. Par contre, on sait que ceux qui sont des groupes 0 ou des groupes O sont des donneurs qu'on appelle universels parce que leur type de sang peut être donné aux autres personnes qui ont d'autres groupes. Voyez-vous, c'est ça, on s'appelle des donneurs universels. Mais tous ceux qui sont des groupes A, des groupes AB comme des groupes B, peuvent donner du sang. Cela n'est pas lié à un type spécifique d'un groupe sanguin. Mmh.
Bien, et certains pensent que on vous transfuse le sang d'un voleur, et bien vous risquez de devenir voleur si on vous donne le sang d'un sorcier, et puis vous courez les risques de devenir vous aussi sorcier. Monsieur Jean-Marie, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Bon, non, c'est pas réel. Nous ne traitons pas les aspects psychologiques, sociologiques autour du sang. Non, comme le directeur l'a dit, c'est une thérapeutique de substitution. Et elle consiste donc à donner au receveur malade le produit sanguin dont il a besoin. Et ici, nous sommes donc dans un aspect physiologique, pas donc dans cet aspect des choses-là. Je profite peut-être pour parler aussi, ajouter à propos de la COVID. Très bien, nous sommes dans une période où nous avons aussi arrêté, en plus de ce que l'autorité a dit, nous avons une stratégie de cabine fixe, c'est-à-dire qui est beaucoup plus simple et plus qualitative parce qu'elle permet à chaque personne qui veut donner son sang de venir à Bandal, au centre d'action sanguine, individuellement. Les conditions sont bien déjà arrêtées pour protéger et le donneur et le prestataire. C'est-à-dire tous les jours, entre 9h et 15h, une personne peut venir indemnement faire le don de sang. Et nous avons noté une stratégie aussi en cabine mobile, eh bien, que ces personnes, quand ils vont sur le terrain, il y a le respect des gestes barrières. C'est-à-dire tout ce qui est donné comme support de protection, vous les trouverez sur notre terrain. Et voilà pourquoi même dans le cadre de la logistique, vous avez parlé, le traitement de la logistique, c'est important ici en communication, parce que notre pays n'est pas encore informatisé. Mais pour que les gens connaissent quelque chose, le don de sang en temps de COVID, nous avons des supports crypto-éducatifs, c'est-à-dire des dépliants, des affiches, associés aussi aux dépliants affiches de la COVID, qui peuvent renseigner le candidat donneur, quand il vient à un poste, la conduite à tenir pour faire le don de sang en période COVID. Voilà un peu ce que je peux dire à propos de ces éléments-là.
Bien, Daniel Lungembo nous a écrit depuis Kisangani. Il dit ceci, l'importance pour le donateur du sang, c'est d'éviter les crises et la hausse de la tension en répétition. La libération gratuite du sang par un donateur permet à celui-ci de vivre longtemps car beaucoup de personnes sont mortes à cause de l'excès de sang dans leur corps. Mais chose grave, les structures sanitaires font commerce du sang qu'ils ont reçu gratuitement par les donateurs. Ma question, comment les structures sanitaires peuvent vendre le sang qu'ils ont reçu gratuitement, sans mettre de l'argent dans la caisse de l'État? Docteur Pacifique.
Ok. Merci beaucoup de la préoccupation de ce compatriote. Moi, je pense que, d'abord, l'aspect qu'il a évoqué, ici, je vais m'attarder sur la vente du sang. Normalement, le produit sanguin, c'est aussi un tissu humain. Et du point de vue éthique, on ne peut pas vendre du sang. Mais ce qu'il faut dire, c'est que un sang qualifié, un sang propre à être transfusé chez un malade, demande une batterie de tests à réaliser. Ce sont peut-être ces tests qu'on réalise qui peuvent coûter. Mais le sang lui-même, il est gratuit. Et donc, si par exemple, vous arrivez au Centre national de transfusion sanguine, vous allez vous rendre compte que le sang qui a été prélevé passe par plusieurs étapes pour être qualifié. Et il y a des intrants qui sont utilisés, il y a des intrants qui coûtent. Il faut aussi dire que si réellement nous fixions les coûts des sessions d'une unité de sang,
ça allait coûter plus cher,
beaucoup
à
plus
cause
cher.
Des intrants qui sont utilisés pour le traitement.
Voilà, alors ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une politique interne au niveau de l'hôpital en ce qui concerne la tarification. En principe, on tarifie l'acte, mais on ne fait pas payer l'unité de sang elle-même. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de voir dans quelle mesure arriver à développer un mécanisme financier alternatif qui puisse faire en sorte que une unité de sang ne coûte rien. Par exemple, nous pouvons lever des options pour dire nous ne partageons les risques en se disant pour chaque consultation, on met 0,01 centime de francs congolais pour pouvoir financer une unité de sang chez un malade quelconque.
Aujourd'hui, si j'ai besoin d'une poche de sang, je vais au Saint-Est, on va me la vendre à combien? Bon, pas vendre, on va me la donner à combien? Parce que vous refusez souvent le mot vendre, on parle de la contribution.
Aujourd'hui, si vous allez au Centre National, nous allons vous céder une poche de sang totale à 20 000 francs congolais, à peu près.
20 000 francs congolais.
Alors que son coût réel reviendrait à autour de 150-200 000 francs congolais. Si nous mettons en ligne de compte tout ce qu'on devrait mettre
en ligne. Tous les intrants qui entrent en ligne dans les traitements.
Voilà, ce coût-là est subventionné par l'État aujourd'hui.
Oui. On va accueillir Albert Kotolo de Kinshasa. Bonjour. Albert Kotolo, bonjour.
Bonjour de la radio Capier. Bonjour à monsieur l'invité.
Quelle est votre question?
Bon, juste, j'ai une petite préoccupation. Ma préoccupation est la suivante. J'aimerais demander à monsieur l'invité, c'est juste une suggestion, hein, demander à monsieur l'invité, le gouvernement congolais doit prendre en charge dans toutes les zones de santé qui se trouvent en République démocratique du Congo. Prenons par exemple dans les 45 territoires de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire chacun de ces territoires doit avoir une banque de sang pour faciliter la vie de la population. Moi, dès que je vous parle, j'ai risqué la mort. C'était juste le 8e mois 2021. Il y a eu un accident, il y a eu un écoulement grandissant de sang. Et j'avais voulu perdre même ma vie. On cherchait même la personne au niveau de l'intérieur, là, chez nous, à Makanja, pour trouver un peu une poche de sang. Ça n'était pas. On était allé chercher les gens en marchant avec le pied, avec les motos. On n'avait trouvé personne. Et j'ai risqué la mort. Et j'avais voulu perdre ma vie. Si le gouvernement congolais va aider aussi la population, toute la population congolaise, et dans toute l'étendue, le gouvernement congolais doit avoir en charge la responsabilité de diffuser dans tous les territoires les postes de sang dans les différentes zones de santé. Et après de cela, après avoir transfusé le sang, là, juste actuellement, j'ai certaines difficultés. Parce qu'auparavant, je n'étais pas comme ça, mais présentement, je me sens bousculé au niveau du corps. Je ne me sentais pas comme j'étais avant. Bon, malheureusement, ma mère, si elle est témoin de Jéhovah, elle est témoin de Jéhovah, elle avait refusé. Et mon papa, il avait dit que non, je ne dois pas perdre ma vie comme ça, on va vraiment me transfiger. Donc, juste, bon, d'après moi, bon, la transfusion sanguine est tellement mauvaise parce qu'elle a toujours des impacts. Malheureusement, j'ai la vie présentement, mais j'ai quelques bousculations au niveau du corps.
Mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez exactement au niveau du corps?
Ouais, je me sens vraiment mal. Il y a même des mouvements là que je ne supportais même pas. Je me sens normalement mal. C'est au moins une année. Je me sentais pas comme je n'étais avant.
Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est lié au sang qui vous a été transfusé?
Oui, parfois. C'est lié au sang là parce qu'on était allé chercher vraiment les sangs comme ça au cours de la route parce qu'il n'y avait pas la disponibilité du sang au niveau de la zone de santé de Makan. Et lorsque j'étais là, on m'avait mis dans la salle d'intervention là, les gens étaient partis pour chercher n'importe qui pour trouver les sangs pour me transfuser. D'ailleurs, bon, j'avais voulu perdre ma vie. Et à ce moment-là, moi-même, je me sentais que non, voilà, je vais perdre ma vie parce que j'ai le manque de sang. Et pourtant que je suis dans un territoire, et le territoire qui est connu, par exemple chez nous à Makanja.
À Makanja, il n'y a pas assez de banques de sang, tout ça.
Oui, mais, effectivement.
Merci Albert Kotolo. Le docteur va vous répondre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Héritier de Bounia. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui dans le cas, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, héritier?
Après, je voudrais demander la question. Après avoir donné 10 ans, est-ce qu'il n'y aurait-il pas des effets secondaires à la personne qui a offert 10 ans? La deuxième question, je voudrais savoir, parce que nous sommes dans le slogan, le peuple est à bord. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour les donateurs 10 ans, après que ces derniers ont offert leur sang aux malades? Quel est l'accompagnement du gouvernement dans ce secteur-là? C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas fait de questions.
Bien, nous avons également Tamboué Kasselele depuis la ville de Béni qui pose une question sur Facebook. Avant, on donnait du lait aux donateurs de sang pour récupérer, mais aujourd'hui, il n'y a presque rien. Qu'est-ce qui se passe, docteur Pacifique?
Bon, ok. En tout cas, je ne cesserai de remercier tous ceux qui interviennent à travers la République. Pour celui de Makanza, par exemple, il a évoqué un problème singulier de couverture des zones de santé. Mmh. Et ici, il faut dire que ceci rentre dans notre mandat. Nous devons donc couvrir toute la République, toute la République en unité de sang. Et cela demande des moyens. Figurez-vous que nous avons autour de 8200 ou 250 aires de santé. Et dans chaque aire de santé, normalement, il y a un centre de santé. Et donc, il nous faut déployer les banques de sang dans chacune des aires de santé. Et ça demande des moyens. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il a évoqué la question des effets qu'il aurait aperçu après la transfusion. Oui. Ici, il faut signaler que, d'une part, il a eu la vie sauve d'abord, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait ce taux de sang. Et d'autre part, il faut évaluer si les effets qu'il ressent aujourd'hui sont des effets liés à la transfusion. Est-ce qu'il y a des causes à effet par rapport à la transfusion? Et je pense, nous avons pris bonne note du fait que nous devons augmenter la couverture réellement, et nous devons aussi faire en sorte que les prestataires qui sont postés au niveau de chaque centre de santé soient formés en pratique transfusionnelle. Nous savons qu'il y a des analyses qu'on fait avant la transfusion et des analyses que nous réalisons après la transfusion.
Mais pour son cas, c'était une situation d'urgence. Est-ce qu'on a toujours le temps de faire ces analyses rapidement?
Tout à fait. Mm. Moi, je suis normatif et je sais qu'avant qu'une unité de sang soit transfusée, elle doit passer par des analyses normalement. Et que l'on suit aussi immédiatement après la transfusion par un autre mécanisme de l'hémovigilance. Alors, il faut ici déterminer quel type d'effet il ressent. Est-ce que les effets qu'il ressent sont liés directement à la transfusion qu'il aurait reçue.
Bien, Monsieur Jean-Marie Banyongwa, votre réaction?
Oui. Oui, en fait, conformément à notre mandat, comme l'a dit l'autorité, c'est rendre accessible et disponible les produits sanguins de qualité à chaque Congolais partout où il se trouve. C'est donc notre responsabilité, mais évidemment, qui est aussi tributaire donc de l'appui. Hein, n'est-ce pas, du gouvernement, comme on l'a dit là-bas tout à l'heure, là, le peuple d'abord, l'accompagnement du gouvernement. C'est important. Parce que nous ne travaillons pas seulement pour les donneurs et les receveurs qui est à Kinshasa, mais nous travaillons pour celui qui est à Kasumbalesa, et qui est à Mbujima et qui est partout dans le Congo. Cela signifie que le programme de transfusion sanguine doit travailler progressivement avec le système, en collaboration avec le système de santé en place. Déjà, on a fait des progrès, parce que dans chaque province, nous avons une coordination provinciale de transfusion sanguine. Nous en avons, par exemple, au Nord-Kivu, qui va jusque même dans les aires de santé. Nous avons des centres de transfusion, par exemple, à Rutshuru, nous en avons à Beni, à Butembo. L'idée, en fait, c'est de pouvoir cadrer toute la République. Et évidemment, nous y allons progressivement avec le rythme du niveau socio-économique de la population ainsi que le niveau d'intervention de l'État, dans la mesure où il faut garantir. On vient de montrer ici l'intérêt que l'émission a manifesté auprès de ceux qui appelaient. On a démontré ici l'importance donc de ce produit sanguin qui provient d'un donneur. Et je pense ici, comme on l'a dit, c'est aussi l'encadrement des donneurs bénévoles de sang. Si cela Makanza a dû chercher, c'est parce que l'encadrement n'est pas encore arrivé dans tous les points, mais nous voulons avoir un système d'encadrement des donneurs qui, à tout moment où on aura besoin d'un sang, qui est des donneurs qui sont réunis dans une association quelque part, jusque dans l'aire de santé, afin d'apporter donc solution au problème du sang. Vous venez de le voir que ça demande en fait tout azimut une contribution de tous. C'est notre rôle, c'est votre rôle, c'est le rôle de tous les communautaires, c'est le rôle de tous les étatiques, c'est le rôle du Parlement, du Sénat, de pouvoir garantir également aux 132 sanguines un modèle administratif et juridique, un outil pour pouvoir faire la surveillance au niveau du pays. Vous voyez, il y a au coin là-bas des personnes en privé qui ne sont pas contrôlées et qui font des transfusions périphériques qui échappent à l'État. Il faut que les centres de transfusion sanguine soient dotés de mécanismes pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Voilà.
Merci, M. Jean-Marie Bayongwa. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication et promotion des dons de sang au Centre national des transfusions sanguines. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Docteur Pacifique, on va conclure avec vous. Vous avez la parole.
Ok. Merci beaucoup, Radio Okapi. Je remercie aussi tous ceux qui sont intervenus de par la République. Nous avons remonté en surface la question préoccupante de l'importance de donner son sang, d'une part, et d'autre part, nous avons évoqué la question de la couverture du pays par rapport aux structures qui devraient normalement prépositionner les unités de sang pour servir la population. Et nous avons évoqué ici la question du prix. Moi, je pense que le gouvernement de la République nous a doté d'un mandat. Le mandat, c'est celui de rendre disponibles et accessibles les produits sanguins de qualité à l'ensemble du pays, avec une mission principale de coordonner les activités de la transfusion sanguine sur l'ensemble du pays. Ceci demande des moyens. Ceci demande la contribution de toutes les parties prenantes. Et le gouvernement seul ne peut pas satisfaire les 100% des besoins. Jadis, les partenaires appuyaient le ministère, appuyer le sous-secteur qui aujourd'hui nous avons la lourde responsabilité de piloter, mais bientôt, ça fait bientôt 7 ans que les partenaires sont quasiment partis, se sont rétractés, et le gouvernement est resté seul comme pourvoyeur de nos moyens. Et nous pensons que c'est encore insuffisant, il nous faut une bonne logistique, et nous avons coulé tout ça dans notre plan stratégique sous-sectoriel qui est costé et que tout le monde peut consulter et que nous pouvons partager les hypothèses de coûts, chacun des parties prenantes peut venir nous aider et faire en sorte que la qualité des sangs que nous produisons soit une qualité irréprochable. Par rapport à la période actuelle, nous avons aussi évoqué, nous faisons des efforts pour orienter les donneurs au niveau du Centre national de transfusion sanguine et nous faisons des efforts pour que lorsque nous nous déployons sur le terrain, que toutes les mesures barrières soient considérées.
Bien, docteur Pacifique Missingui, directeur du Centre national de transfusion sanguine, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci.